Aujourd'hui, on est sur l'homme et le langage. Normalement, c'est un cours où on devait traiter le langage, la technique, l'itinérance. Donc, on ne fait que le langage, parce que déjà, j'ai un cours de 6 pages. Donc, voilà, c'était trop ambitieux. Voilà. Et puis, le langage, c'est quand même très, encore plus théologique, peut-être, que les deux autres, étant donné que Dieu, enfin que le Christ est le Verbe de Dieu, donc du coup c'est tout à fait pertinent. Alors il y a plein de manières de regarder le langage, et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses sur les sciences humaines au XXe siècle, sur la linguistique, j'en dirais quelques petits mots. Il y a plein d'autres approches, tout ce qui est autour de la phonétique, l'analyse de l'apprentissage du langage par les enfants. Tous les handicaps du langage aussi, voilà. Donc il y aurait plein de manières de le traiter. Donc là, on est plutôt tourné, comme c'est un cours théologique, on est plutôt tourné vers l'écoute de Dieu, quoi. Qu'est-ce que Dieu nous apprend sur ce que la parole est pour nous. Voilà. Alors, pour chacun d'entre nous, le langage est d'abord un outil de communication. Donc c'est vrai que c'est d'abord ça, à ça qu'on pense quand on pense au langage. On l'utilise dans la vie quotidienne, tout le temps. Ainsi que le langage apparaît comme un outil utile et efficace pour échanger et interagir avec autrui. Alors on anticipe quand même quelques limites. On ne se fait pas toujours bien comprendre, on ne parle pas toujours tous la même langue, etc. Mais enfin, globalement, c'est quand même assez efficace pour échanger, pour partager, pour entrer en relation. Mais on pourrait aller un cran plus loin, donc c'est pas seulement un outil de communication, donc comme si c'était quelque chose d'accessoire à nous, mais c'est vraiment quelque chose qui définit l'homme, puisque c'est par la parole quelque part qu'est fait l'homme. C'est un des points de le cours dernier, on avait vu la différence entre l'homme, l'animal, et puis l'homme et l'ange. Et c'est un des points qui nous différencie de l'animal, c'est cette capacité de langage. Voilà, on est capable de combiner des signes selon des règles, de telle sorte que ces combinaisons de signes aient un sens qui est le même, ou en tout cas assez proche, suffisamment proche pour qu'on se comprenne, et qui permet de communiquer avec d'autres. Donc je vous ai cité une phrase de Heidegger qui a beaucoup écrit sur le langage. Donc Heidegger, c'est un philosophe. Claire, l'être humain parle, constamment nous parlons, d'une manière ou d'une autre, nous parlons parce que parler nous est naturel. C'est bien la parole qui rend l'homme capable d'être le vivant qu'il est en tant qu'homme. L'homme est homme en tant qu'il est celui qui parle. Donc pour lui, c'est vraiment l'un des points qui structure l'homme. Voilà. Alors nous, dans ce cours, on va regarder, puisque la parole vient de Dieu, donc on va se mettre aussi à son écoute pour voir qu'est-ce qu'on peut dire de cette parole, comment on peut l'apprivoiser. Et puis la parole, c'est ce que je vous disais, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas juste un instrument ou un outil qui nous est extérieur, c'est quelque chose qui nous structure, et il nous structure de l'intérieur, et aussi parce qu'il nous met en relation avec les autres et avec Dieu. Et puis la parole, elle a aussi une puissance qu'il ne faut pas sous-estimer. Et si on se met à l'écoute du Christ, disciple du Logos, et ben elle portera du fruit, et donc elle peut avoir une puissance démultipliée. Alors, dans un premier temps, l'homme apprend à parler à l'écoute de Dieu. Alors déjà, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que c'est Dieu qui parle en premier. Donc c'est lui qui est à l'origine. Donc c'est d'abord Dieu qui parle. Il parle, il se parle, puisqu'il dit « faisons l'homme ». Donc c'est quelque chose aussi d'intérieur à Dieu. Sa parole, on emploie le mot performatif pour dire qu'elle fait ce qu'elle dit. Donc quand il dit que la lumière soit, et ben la lumière elle est. Donc c'est directement une parole et en même temps un fait. Soyez féconds, mais multipliez-vous, c'est la même chose. Elle est aussi prescriptive. Donc là, il donne des choses. Qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire. Donc là, quand il s'adresse à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et puis, il a aussi des paroles de bénédiction. Voilà, Dieu les bénit. Donc on voit sous cette forme de parole. Et puis, la première partie de la Bible, c'est il n'y a que Dieu qui parle, dans le premier Genèse 1. Donc on peut dire que l'humanité a appris à parler parce que plus originairement, Dieu lui parle à travers la création et dans le secret de son cœur. Donc il y a même quelque part une prise à l'intérieur de l'homme. Dieu lui-même est habité par une parole, son verbe éternel. Donc en Dieu, il y a aussi cette notion de verbe. On va reverra un petit peu plus loin Jésus, le verbe de Dieu. Et l'homme, en écoutant Dieu qui lui parle, découvre son humanité. En fait, c'est aussi dans cet échange et en réception de cette parole de Dieu que l'homme se positionne. C'est intéressant de voir que Dieu le dialogue avec l'homme pour le pousser à parler. Et donc, notamment, l'épisode où il amène les animaux vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. Et l'homme, du coup, expérimente ce fait que bah, il n'est pas comme les animaux, d'ailleurs. À la fin, il donne les noms à tous les animaux, puis il dit, bah, voilà, c'est pas une aide à ma dimension, quoi. C'est, voilà, je suis différent. Et probablement que cet exercice de parler, de nommer, lui a fait réaliser ça. Alors après, en présence de la femme, il s'écrit cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc là, on a une vraie première parole. Donc c'est les premiers mots dans la Bible de l'homme qui sont la parole d'admiration qui s'ouvre sur cette relation, puisqu'il est en vis-à-vis par rapport à la femme. Alors, une dernière dimension dans ce Dieu qui parle en premier, c'est aussi des attributs de la parole de Dieu. Donc je vous ai remis des textes de Hébreux. Hébreux 4, 12. Vivante est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Donc elle est vivante, donc elle est quelque chose d'actif, c'est pas quelque chose d'inanimé. Et puis elle a ce côté tranchant qui révèle les choses, voilà, qui sépare. Donc ça, c'est aussi quelque chose de la parole de Dieu qui est en rapport aussi avec la dimension de vérité. Comme lors de la création, la parole de Dieu sépare les éléments pour aboutir à la clarté, là où nous nous complaisons dans la confusion. On est tout proche de l'image du Christ dans l'Apocalypse, donc ce sera repris Apocalypse 1, 16. De sa bouche sort une épée effilée à double tranchant. Donc, la même idée de jugement, de séparer et de révéler aussi. Alors Dieu parle par la loi et les prophètes. Donc après ce premier épisode de la Genèse, on voit que la même parole qui a créé le ciel et la terre et qui bouscule la nature intervient de façon abrupte dans la vie des hommes en éditant des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne tueras pas, etc. Donc là on a tout le Deutéronome, puis toute la suite. Donc en général, Dieu ne se justifie pas et sa justification c'est « Je suis le Seigneur votre Dieu ». Donc du coup c'est une forme de justification parce que lui il est. Donc cette parole de commandement, elle est en lien avec le fait que c'est que Dieu est lui-même la parole en fait, et que du coup il y a c'est parce que je suis Dieu que du coup je peux dire aussi quelque chose à l'homme et que ça passe par la parole. Alors Dieu exige en retour que l'homme respecte sa propre parole, ne fasse pas de faux serments au nom de Dieu et ne se rende pas coupable de témoignages mensongers. On verra tout petit peu plus loin la parole mensongère et comment le mensonge a dévoyé la parole. Qui n'était pas fait pour ça. Donc avant même la venue du Verbe parmi nous, du Christ, Dieu nous a parlé par ses prophètes et ses inspirés. Il a pris nos mots, il les a fait siens. Et finalement, à travers le prophète, Dieu parle. Alors ce n'est pas une parole mécanique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un porte-voix qui dit les mots de Dieu. C'est bien quelqu'un qui parle. Donc le prophète, c'est vraiment l'homme de la parole. Son activité principale, c'est de parler. Et il vit cette imbrication entre la parole de Dieu et sa parole d'homme. Donc il est vraiment comme au service du message qu'il est chargé de transmettre aussi exactement que possible. Mais il répète pas sans comprendre le message. Il y met lui-même sa propre touche et sa propre façon de le parler. Il vit cette parole de tout son être, donc c'est même au-delà de juste le dire et l'exprimer, mais ça change complètement sa façon d'être, et il s'identifie à cette parole finalement. C'est très très vrai, on cite Osée, Jérémie, Ézéchiel, on pourrait aussi citer Isaïe, où là il y a une vraie imbrication entre le message qu'ils portent et le rôle de leur vie. C'est très symptomatique dans Osée, puisque tout ce que vit Osée personnellement avec ce rapport avec sa femme infidèle, c'est ce que le Seigneur vit avec Israël. Donc on est vraiment dans un... Voilà, la parole est structurante aussi pour ces prophètes. Et c'est quand même... dans les plus beaux chefs-d'œuvre de littérature, on peut dire, hein, puisqu'on parle de langage, donc c'est aussi... comment la Bible porte aussi cette langue. Et on a des très très beaux passages dans les prophètes. Enfin, les trois là, ils sont magnifiques, mais Isaïe, il y a des passages aussi magnifiques. On verra plus tard un peu les psaumes aussi, qui sont une autre forme de mise en musique, si je puis dire, de la parole. Et vraiment, il y a cette imbrication, cette parole est innervée parce que Dieu demande aux prophètes de porter comme message. Et du coup, c'est quelque part la parole divine qui prend la parole humaine pour pouvoir être portée. Alors, ça nous amène à la voix et la parole. Donc, saint Augustin a pas mal dans son sermon 288, je ne vous ai même pas mis la référence. Saint Augustin a beaucoup parlé de la voix et, du verbe, en distinguant ce qui est de la voix et ce qui est du verbe. La voix ne fait que retentir, ne présente aucune signification lorsqu'un simple mot sort de sa bouche. Donc, si on n'est qu'une voix sans l'intelligence, sans qu'elle soit mise au service de l'intelligence de la parole, et ben en fait elle a pas de sens, et du coup c'est même pas une voix, c'est rien, c'est un son. Voilà. Pour saint Augustin, donc Jean est la voix qui crie dans le désert. Donc on est tout à fait en plein dans la thématique de l'avant. Mais la voix est transitoire, tandis que la parole demeure à la fois dans celui qui parle et dans celui qui la reçoit. Donc ça, saint Augustin a beaucoup insisté sur cette chose-là, c'est que la parole, elle s'exprime et puis elle se reçoit aussi. Donc, elle est des deux côtés pour être vivante, justement. Donc, un commentaire sur Saint Jean-Baptiste, et notamment le fait que Zacharie se tait et perd la parole jusqu'à la naissance de Jean, et que c'est pas neutre, puisque Jean est le précurseur du Seigneur, qui lui rend la parole, en fait. Voilà, donc, avant l'annonce du Christ, la prophétie est comme cachée et close. Voilà, elle est dans des prophètes, mais elle n'est pas révélée, enfin, elle n'est pas claire et pour tous. Elle devient claire pour l'arrivée de celui qui était prophétisé, et donc elle est déjà claire avec Jean. La parole rendue à Zacharie à la naissance de Jean correspond au voile déchiré à la mort de Jésus sur la croix. Là, il y a une forme de révélation et d'ouverture. L'Ancien Testament s'ouvre sur le Nouveau Testament. Et du coup, la parole lui est rendue à cause de la naissance de celui qui est la voix. Mais Jean, qui est la voix pour un temps, et puis un temps où il finit en prison et puis il finit mort, et on n'entend plus sa voix, alors que le Christ, lui, c'est le Verbe qui est depuis le commencement, qui est Jésus incarné, et puis qui est le Verbe éternel. Voilà, donc du coup, il y a cette dimension de la parole qui reste et qui demeure et qui s'installe. Alors Jésus, le Verbe incarné, la parole de Jésus est une parole qui marque. Elle est frappante d'autant plus qu'elle est souvent accompagnée de miracles. Donc elle avait apparemment un charme incontestable, puisque tous étaient dans l'admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est quand même une expression très forte. Elle provoque aussi la stupeur, donc elle ne laisse pas indifférent, elle bouscule, et même la colère. Voilà. Donc la parole de Jésus, on retrouve la dimension de Dieu, du Père à la création. Elle est performative, c'est-à-dire que quand il dit quelque chose, ça se réalise. Quand il dit « tes péchés sont remis », les péchés sont clairement remis. Et pour être sûr que c'est vrai, il dit « lève-toi et marche », et la personne se lève et marche. Donc du coup, on a cette vraie dimension d'effectivité de la parole, qui est la parole de Jésus, qui est une parole d'autorité de l'homme vrai. Alors parce qu'elle est vraie, parce qu'il est ancré en Dieu, et parce que finalement, il a les attributs de la parole créatrice du vrai Dieu. On peut dire qu'elle est théandrique, à la fois Dieu et à la fois homme. Alors, on a la phrase aussi sur « il les enseigne en homme qui a autorité ». Donc, on est aussi avec cette notion d'autorité. Et cet enseignement qui est nouveau, parce qu'en fait, il réalise ce qu'il annonce. Donc, ce n'est pas juste du vent, ce n'est pas juste une annonce et puis une prophétie, puis on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est vraiment quelque chose qui annonce, parce qu'elle a l'autorité de commander et d'être obéie. Voilà. Et la parole de Seigneur transforme autant qu'elle a la puissance de créer l'écoute, puisqu'elle ouvre l'oreille des sourds. C'est un des miracles qui sont les plus nombreux, c'est effectivement de redonner l'oreille. Il y a beaucoup d'histoires de sourds muets dans les miracles de Jésus. En fait, c'est très symptomatique parce que il y a quelque chose de pouvoir être vraiment un homme et puis de se reconnecter à Dieu. Voilà, de pouvoir annoncer et parler et entendre la parole de Dieu. Alors Jean, l'évangéliste, appelle Jésus la parole. Donc il emploie le mot le verbe, le logos, au début du prologue de son évangile. Alors en fait, c'est les mots, parce que lui, évoque le davar biblique qui est en fait action. Donc c'est intervention de Dieu dans l'histoire. Donc c'est une parole qui n'est pas juste une parole, une pensée, mais qui est vraiment quelque chose qui agit et qui est presque événementiel. Il intègre aussi le sens que ce thème avait pris dans la pensée grecque. Donc là, on a une forme de... Voilà, ça rejoint aussi toute la démarche des Grecs sur tout ce qui est autour du logos. Logos dans le sens beaucoup plus raison, voilà, qui est du coup la capacité de penser et de structurer l'être. Or, Jésus, c'est la première et la plus parfaite expression de l'être de Dieu, son Père. Il est comme un écho infiniment ressemblant, même si différent, qui jaillit du silence du Père. Donc, en fait, la parole, elle est par Jésus. Et d'ailleurs, les paroles du Père qu'on entend, que ce soit la transfiguration ou au baptême, c'est au moment où Jésus est là. Donc, c'est une parole qui est éminemment appuyée sur Jésus. Il est fort probable que Jésus lui-même ait utilisé ce terme pour parler de lui, parce que dans les paraboles de la germination, il dit que la parole est semée dans les cœurs. Et donc, probablement qu'il parle de lui. Voilà, donc c'est cette idée de parole qui se répand et qui porte du fruit, finalement. Donc, cette parole, elle est donc à la fois en Dieu et sur terre. Le Verbe va au-devant de l'homme et pénètre en lui pour le transformer. Donc, c'est aussi une parole qui ne reste pas extérieure, mais qui entre dans l'homme. Les pères nicéens font la distinction entre la parole intérieure et la parole proférée. Donc, chez nous, on a les deux aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi notre parole intérieure et comment... On voit bien dans les méditations de la pensée, enfin, on verra un petit peu après sur la pensée. Mais en Dieu, cette parole intérieure qui est le Fils, en fait, elle préexiste éternellement dans le sein du Père. Et donc, il y a cette imbrication entre la parole intérieure, qui est intérieure à la Trinité, et la parole extérieure qui vient nous rencontrer la création. Alors, une autre façon de regarder aussi la parole ou le Verbe incarné, c'est de regarder l'Eucharistie. On parle dans deux sens en fait. D'une part parce que c'est le Christ à la scène, c'est une phrase, ce qu'il prononce comme parole, c'est une parole éminemment performative. Il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et ça peut paraître complètement incongru quand on est jeudi saint et les disciples, je pense, n'ont pas du tout réalisé. Pas du tout, mais pas tout réalisé, voilà, pour être correct. Mais le lendemain, ils ont compris ce que ça voulait dire, où il y avait vraiment le corps et le sang du Christ, et ensuite, ils ont reproduit cette prière. Et donc, dans la prière de consécration, la parole du prêtre, elle est comme celle du Christ, elle devient du coup non seulement déclarative, répétitive, mais elle est opératoire. Voilà. La parole qui donne forme à la matière du sacrement est concomitante avec sa réalisation intérieure, la grâce. Et même la matière elle-même est transformée par la parole, puisque le corps du Christ prend la place du pain, tout en conservant les apparences de celui-ci. Donc on est exactement dans le régime de la parole performative, qui du coup est dite par le prêtre, et pas seulement par Dieu. Le Christ se rend présent par la parole, une parole où le signe et le signifiant sont unis. Donc évidemment, dans l'Eucharistie, on n'a pas de dédoublement entre le signe. Dans la parole, le mot, il est différent de la réalité. Je peux penser à une chaise, mais ce n'est pas une chaise qui est là. Enfin, ça ne fait pas surgir une chaise, quoi. Dans l'Eucharistie, on a le pain qui est le pain et le corps du Christ sont complètement unis. Donc, c'est le même... Le signifiant et le signe unis, quoi, homogènes. Enfin, pas homogènes, mais ensemble. Et le concile nous rappelle que les deux parties qui constituent en quelque sorte la messe, c'est-à-dire la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, sont si étroitement unies entre elles qu'elles constituent un seul acte de culte. Donc en fait, la parole dans la messe, donc il y a à la fois l'Eucharistie, la parole qui fait que l'Eucharistie devient le corps du Christ, mais il y a aussi la parole de la première partie de la messe qui est la liturgie de la parole, qui elle aussi finalement rend présent le Christ, et les deux sont c'est ça qui forme l'acte de culte. Donc, c'est les deux ensemble. Celui que nous mangeons, c'est le Verbe sous les espèces du pain et des mots. La parole du prêtre délivrant le message divin est aussi performative que la parole du prêtre consacrant les offrandes. C'est bien le modèle sacramentel qui, dès la prédication évangélique, fonde cette sacralité. Et donc, c'est pour ça que l'homélie ne peut pas être dite par n'importe qui, parce que c'est la parole, et c'est dans ce temps de la parole. Et donc, on est dans le même registre de la prédication qui est celle du Christ, en fait. Voilà. Alors, c'est moins fort, parce que dans l'Eucharistie, il y a vraiment la présence du corps du Christ. Mais en fait, la parole, c'est quand même la parole du Christ qui est là aussi. Donc, c'est le Christ qui est là dans la liturgie de la parole. Alors, dans un deuxième temps, je voudrais parler de la parole pour la relation. Donc, la parole, elle est vraiment ce lien, cet objet qui nous permet de rentrer en dialogue avec l'autre. Donc, Adam, dès le début de la Genèse, apprend à déchiffrer le mystère de l'amour à travers cet autre si semblable à lui que Dieu lui présente et avec qui il peut entrer en dialogue. Donc, c'est vraiment cette phrase exclamative d'admiration devant la femme. Et ensuite, quand il lui donne, après le péché, le nom que Adam donne à la femme, est relatif à l'homme. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les hommes. Et donc, il y a bien ce jeu, c'est de la relation. Donc, le nom et la parole d'Adam est éminemment lié à la relation. Donc les paroles naissent de la relation car elles sont nécessaires à la relation. Nos paroles sont des réponses à d'autres paroles. Parler suppose qu'on nous ait déjà parlé et dans le langage se profile l'importance de l'autre. On parle pour quelqu'un, on parle avec quelqu'un, on parle... voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie quelque part de la parole qui est celui qui est en face. Dans le langage, il y a la présence des autres, d'une communauté, d'une famille, d'une société. Enfin, tout. Intéressant sur la prière d'intercession, où même si on ne parle pas à quelqu'un, ben, en fait, elle est toute tournée vers la relation, puisqu'elle est prière pour des gens, pour des personnes. La parole n'est pas un épanchement, donc ce n'est pas juste quelque chose qui déborde de chez nous. Là. Elle est un don volontaire fait à l'autre pour l'éclairer, pour le réjouir, le consoler, lui révéler ce qu'on porte en soi de plus beau. Elle est faite pour construire l'avenir, s'entraider dans la quête de la vérité. Donc il y a toutes ces dimensions de, voilà, de rentrer en relation dans plein de façons avec l'autre. Saint Paul, dans ses lettres, a donné beaucoup, beaucoup de conseils sur la parole, comment vivre la parole en tant que disciple. Donc je vous ai cité quelques exemples, mais quasiment dans toutes ses lettres, il y a des choses là-dessus. Que la parole du Christ réside chez vous en abondance, instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole, capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Que votre langage soit toujours aimable, assaisonné de sel, j'aime bien de la sagesse, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Il y a aussi toujours le rapport entre la parole et la nourriture, c'est assez symptomatique. Voilà, donc il y a plein d'exhortations à justement que cette relation soit, que cette parole soit, construise la relation finalement. Alors, la parole est pour entrer en dialogue avec l'autre, mais elle est aussi, finalement, elle exprime notre pensée. Et donc, c'est ça qui va aussi nous conduire à rentrer en relation avec l'autre. Alors, là, un petit cours de linguistique, parce que quand même, il fallait que je le place quelque part. Donc, le langage, c'est la faculté qui permet à l'homme d'exprimer sa pensée à l'aide de signes. Donc, Ferdinand de Saussure, qui est vraiment le fondateur de la linguistique, donc fin 19e... principalement, a fait progresser la connaissance sur la spécificité du langage humain et en particulier du signe linguistique. Donc il a écrit un gros pavé sur la linguistique. Et ses points clés, c'est que le signe linguistique, donc la langue, est un système de signes qui est unique par rapport aux autres. On a un signe qui est l'ensemble qui constitue à la fois du signifiant et du signifié. Donc le signifiant, c'est le mot, le son, c'est-à-dire ce qui porte la langue, enfin, ce qu'on veut dire. C'est l'aspect matériel du signe. Et puis le signifié, c'est le sens, le concept, l'idée, c'est l'aspect immatériel du signe et donc ce qu'il y a derrière. Voilà. Et donc Ferdinand de Saussure montre que le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, c'est-à-dire immotivé. Donc c'est pas arbitraire au sens où on peut choisir n'importe lequel. C'est qu'en fait, il n'y a pas de raison pour lequel la chaise s'appelle chaise. Voilà. Et que c'est un choix, une convention. D'ailleurs, dans des différentes langues, c'est pas les mêmes mots. Mais ça n'empêche pas qu'on ait un lien entre un signe, entre un signifié et un signifiant. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on passe de la matérialité du signe, donc à ce son, au sens? Donc là, on a une opération mentale psychique qui est très compliquée. Donc, il y a eu beaucoup d'études aussi là-dessus, dont on ne prend plus conscience tellement elle nous est familière. Pourtant, on sait que cette opération, elle est difficile. L'apprentissage de la lecture, c'est pas simple. Même l'apprentissage de la langue, enfin, l'homme n'est pas l'animal, on émet des sons quand on est nourrisson, mais... Voilà, parler la langue, ça prend du temps. Ça n'arrive pas, c'est pas comme ça, en claquant dans les doigts, parce qu'il y a cette appropriation, de passer, en fait, c'est une forme de capacité spéciale de l'intelligence qui permet de symboliser et de remplacer un mot par son sens, le mot par son sens. Donc quand je pense, quand je dis ou quand je pense chaise, bah, en fait, je sais ce que je suis en train de penser à ce que c'est cette chose-là qui me dit la chaise. Donc on a un concept qui permet de nommer toutes les choses semblables, mais aussi leurs différences. Et le mot, finalement, n'est qu'un point d'appui, un tremplin qui nous permet d'accéder au niveau du sens. Le signe est même présence d'une absence. Le langage humain a cette faculté particulière de pouvoir évoquer une chose en son absence. En fait, on passe son temps à parler de choses qui ne sont pas là. Finalement, c'est l'essentiel de notre activité de parole. C'est cette capacité aussi de symbolique, voilà, de représenter et d'y penser. Voilà. Donc avec le langage, on entre dans un autre univers que le monde physique. Le langage crée un monde qui lui est propre et qui lui permet d'exprimer son intériorité et sa pensée de façon très précise. Alors, on a toujours l'impression qu'on n'arrive pas bien à exprimer ce qu'on est, mais c'est déjà d'une puissance et d'une capacité d'expression qui est quand même très, très riche. Quand on pense que c'est juste des sons, quelques lettres, quelques syllabes, et on est capable de faire un traité de philosophie, voilà, par exemple, ou d'écrire la Bible. Le langage atteste de la présence d'une conscience. La conscience est la faculté de se distinguer d'un mode extérieur et de soi-même. Donc c'est aussi cette capacité de distinguer les choses. Et donc là, on rejoint la thématique de la relation. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est moi et ce qui est autre. Et donc, on est capable de distinguer les choses et de les répertorier aussi, et de distinguer ce qui est de soi et de ce qui est des autres. Le langage est le signe de la présence de la raison, parce qu'il est impossible que des signes puissent être agencés et en désannoncés ayant un sens sans que la raison n'ait présidé à cette construction. Inversement, la raison ne peut se développer qu'à l'aide de signes de représentation générale. Ce sont les signes linguistiques, ce que les signes linguistiques lui offrent. Selon Hegel, c'est dans les mots que nous pensons. C'est vrai que si on réfléchit deux minutes, en fait, on pense avec des mots. Alors, il y a quand même une dimension qui n'est pas forcément mise avec des mots au sens strict du terme, parce qu'il y a aussi de l'intuition, il y a aussi de la forme de perception, etc. Mais en fait, la raison, elle se développe vraiment à partir des mots, et c'est de là qu'on peut, élaborer. Voilà. Alors, le mensonge dans tout ça, c'est vraiment le mal de la parole. Donc, le péché est entré par la parole du serpent. Donc, on a toute l'histoire du péché, ça commence par une parole. Donc, vous voyez, le fait que le langage, c'est quand même, et la parole, c'est quand même très structurant pour la création de l'homme. C'est structurant aussi pour l'entrée du péché. Donc, il dit une parole mensongère. Donc, le mensonge est entré dans le monde, et c'est le cœur du péché. Après la faute, on voit bien que le discours de l'homme et de la femme dégénère en paroles d'accusation et de fausses excuses. C'est elle, c'est le serpent, etc., paroles vaines. Alors que juste avant, il était des paroles avec admiration, voire de bénédiction, de nommer les choses, donc de les faire être, et finalement d'être dans la gouvernance de la terre. Voilà. Et là, on voit que ça dévie et ça part complètement dans un autre sens. Donc la parole mensongère, elle cache le vrai, le travesti. Elle introduit dans la relation une fausseté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le serpent, il ne dit pas des choses fausses, mais il crée une connexion entre deux choses, et ça, c'est faux. En fait, ce qu'il dit, ce n'est pas tant des choses individuellement fausses, c'est-à-dire que les mots qu'il emploie sont assez proches de ce que Dieu a dit. Mais comme il met des relations entre les mots qui ne sont pas les mêmes, et du coup, en fait, il fausse le sens, justement. Et c'est dans cette relation que c'est faussé. Et donc, cette perversion de la parole par le mensonge, elle va éloigner les êtres des uns des autres. Et donc, on déconnecte la parole et la réalité. C'est le principe du mensonge, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai, donc on déconnecte la réalité. La réalité visible, pensée, de la vérité. Et donc, le péché, cette désunion. Alors, Saint-Jacques a dans ses lettres beaucoup, beaucoup de mots pour nous alerter sur les dangers de laisser aller sa langue sans contrôle, maintenant que nous sommes sous le régime du péché. Donc, faut la surveiller, la langue. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc, il y va quand même assez fort. De la même bouche sortent les bénédictions et les malédictions. On bénit Dieu, mais on dit du mal de ses frères. Voilà. Et donc, beaucoup des phrases de Saint-Jacques, de ses lettres, sont là-dessus. Donc la parole peut devenir une arme offensive ou défensive pour s'affirmer, pour humilier, pour se protéger et même pour tuer, en tout cas pour blesser et pour... Et puis elle n'est pas du tout tournée vers la relation. Alors l'épisode de la tour de Babel, que vous attendez tous forcément puisqu'on parle du langage. Alors en fait, si on reprend l'épisode de la tour de Babel, j'ai passé un petit peu... je vous ai mis un paragraphe assez important sur le sujet, parce que c'est quand même ça dit pas mal de choses sur le lien de la parole avec d'autres choses. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes étaient rassemblés en un endroit. Ils parlaient tous la même langue, donc ils se comprenaient. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Voilà. Et donc ils se réunissent et se disent « Allons !» Bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux, faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Donc en fait, si on regarde cette chose-là, on se dit, Dieu intervient pour empêcher ce projet et il fait de la confusion des langues. Alors je vous fais un parallèle avec George Orwell 1984, aussi, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous vous en rappelez, moi je ne me rappelais pas, mais voilà, je l'ai relu, enfin j'ai relu le passage. Et du coup, il crée une langue, la novlangue, qui est l'idée de créer une nouvelle langue qui permettra de mieux contrôler les pensées, parce qu'en fait, elle supprime toutes les nuances. Donc c'est une langue assez typiquement totalitaire, où finalement, il n'y a plus du tout toutes les nuances, et qui fait que finalement, chacun va penser la même chose, en stéréotype. Voilà. Et donc, il n'y aura plus voilà, tout ce qui est discours manichéen, en fait, ça enlève la réflexion sur la complexité d'un problème, ça enlève la richesse, justement, dans la relation d'essayer de comprendre où en est l'autre. Et donc, ça réduit considérablement la chose. Et du coup, on ne peut plus penser durablement, faute de renforcement par l'échange du dialogue. Donc, je trouve ça assez intéressant quand même, parce que ça veut dire, et c'est ce que voulait faire la tour de Babel, ce qu'il voulait faire, c'est construisons-nous une seule ville, rassemblons-nous, donc on ne fait plus qu'un bloc. Faisons-nous un nom, un seul nom, alors que Dieu, il a donné la diversité, même si c'est à l'origine un seul couple, il a plutôt fait de la diversité. Voilà, et ne pas être disséminé sur toute la terre, alors que Dieu avait dit, bah, allez occuper toute la planète, quoi. Donc du coup, on est bien contradictoire et c'est bien contre Dieu, l'idée de se faire plus qu'un. Et de supprimer cette... Donc c'est l'idée d'une unité, mais qui n'est pas l'unité de Dieu, qui est l'unité de l'uniformisation. Voilà. Donc c'est intéressant que ce soit sur le langage que soit passée cette chose-là, et que ça nous dit encore tout à l'heure, et c'est la parole mensongère du serpent, mais là c'est la parole... C'est le voilà, cette fausse idée d'unité et qui est l'uniformité, en fait. En fait, l'unité voulue par Dieu, c'est la convergence de nos individualités vers Dieu. Donc chacun, Dieu nous aime individuellement, personnellement chacun, et en même temps, il aime l'humanité. Donc voilà, et on a cette et donc c'est pas du tout cette caricature d'unité. Donc la langue unique, en fait, elle garantit pas du tout une compréhension mutuelle, parce que ça, elle suppose la compréhension mutuelle, elle suppose d'être à l'écoute de l'autre. Et donc, si on estime que chacun utilise exactement le même mot et qu'on fait pas attention aux nuances et des choses comme ça, ben en fait, on gomme l'écoute, et on n'est pas dans la charité, dans la vraie relation pour découvrir l'autre. Donc ce que fait Dieu, c'est qu'il agit, donc il brouille les langues, donc désormais il y aura plusieurs groupes linguistiques. Alors l'avantage, c'est que ça a eu un effet positif, c'est qu'il y a une variété de cultures différentes qui enrichissent l'humanité, et puis cet effort de compréhension, de mieux, et on sait tout le travail des traductions, et dans la Bible, on a toute une histoire de comment on a traduit, comment on a utilisé chaque mot, comment on est revenu sur le sens plus littéral, comment on est repassé sur autre chose. Donc toute cette richesse de ce travail qui permet de mieux comprendre et de mieux s'approprier encore la parole de Dieu. Donc c'est vraiment une nouvelle aventure, une nouvelle expérience avec Dieu, fondée sur la confiance, puisque là, il va falloir faire confiance à Dieu, faire confiance aux autres. Et c'est ce qu'ont expérimenté la Babel inversée, on va dire, c'est la Pentecôte, où tous les apôtres étaient dans un même lieu, mais là, pour une bonne raison, c'était pour recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'union, l'unité de la compréhension, plus que l'unité des langues, puisqu'ils parlaient en langue au pluriel, et pas en une seule langue, voilà. Et donc, c'est dans la compréhension que le Saint-Esprit agit pour faire cette unité. Alors, Jésus, il a aussi un discours assez dur auprès des pharisiens. Il les appelle « race de vipères », donc il y a plus sympa quand même comme appellation. « Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous êtes ? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. » Voilà. Donc, « race de vipères », il souligne le fait que la nature de l'homme a été revêtue de la même nature que le serpent, le père du mensonge. Depuis la faute, donc eux, mais en fait nous tous, parce que c'est le péché qui fait ça. Et donc on a tous on peut tous être un peu race de vipère. Voilà, et c'est maintenant une manière de penser conforme au père du mensonge qui est présente dans la pensée des hommes et qui produit ce mauvais fruit. Et Jésus, lui, il met en lumière ce problème de l'homme, cette manière fausse de penser, et il apporte la solution qui est connaître la vérité qu'il enseigne et démontre au sujet de son père et de son amour. Donc, c'est retrouver le lien avec le Père et la vérité. Donc, mentir contredit toujours notre vocation d'être fait pour communiquer entre nous et avec Dieu. Il fausse la relation et transforme le discours en un procédé malhonnête pour agir sur l'autre dans le sens de nos intérêts. Donc, le mensonge est un péché capital pour cette bonne raison-là aussi, que voilà, il nous détruit quelque part et il détruit notre capacité de relation et le fait qu'on est fait pour la vérité. Alors, la relation à Dieu, donc, après le péché, on pourrait se dire, bon, ben, la parole, elle est disqualifiée. On a vu la parole d'Adam et Ève après le péché, on voit la tour de Babel, etc. Ben non, pas du tout. Dieu, il continue de parler aux hommes dans leur langue. Donc on a plusieurs très beaux exemples. Le dialogue entre Dieu et Abraham. Donc vous savez, avec l'histoire de Sodome, où Abraham intercède pour Sodome en disant « Et s'il n'y en a que 10 justes, etc. » Et c'est un très beau dialogue, justement, qui manie toute la richesse de la langue. Voilà, entre Dieu et son ami. Donc il accepte de discuter sur cette question dans la langue d'Abraham. Voilà. Et puis bon, à la fin, Abraham est obligé de conclure qu'il n'y a même pas 10 justes dans la ville, et donc il ne peut pas aider à sauver la situation. Après, on a aussi dans la langue de Moïse, donc le Dieu fit connaître son nom, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc c'est bien dans la langue de Moïse qu'il dit son nom à lui. Et on sait l'importance du nom chez les Juifs, donc c'est important pour dire l'être. Avec Moïse, il y a aussi cet authentique dialogue entre Dieu, donc il y avait des grandes conversations sur le Sinaï, voilà, et donc il y a la loi, donc il y a tout cet échange, et donc la parole n'est absolument pas disqualifiée, et Jésus, quand il vient, il parle avec notre langue, pas la nôtre là en France, mais en tout cas avec la langue des hommes, voilà, et elle est capable de faire des choses très belles, voilà. Donc Thomas d'Aquin, il dit que nos mots expriment souvent la réalité de manière fragmentaire, car la réalité est complexe et surpasse de loin la capacité intellectuelle de l'homme. Et puis parce qu'on a aussi ce péché qui ne nous aide pas à avoir une parole vraie et juste. Et par opposition à Dieu, qui lui exprime tout en un seul verbe. Il s'exprime avec Jésus, et c'est toute la totalité de ce qu'il y a exprimé, mais toute la richesse aussi. Alors, et nous sommes seulement... Dieu nous a appris à parler et à sortir de nos vaines réclamations, nos silences butés et de toutes nos paroles fausses. Et il transforme notre cri en prière, nos tristesses en supplications, nos joies en hymnes. Ce sont les psaumes. Les psaumes, c'est vraiment un hymne à la parole et à la langue de tout ce qu'on peut dire. Voilà, du cœur de l'homme, dans toutes ses dimensions et dans toutes ses façons de faire. Alors, en troisième... En avance. La parole pour être disciple du Logos. Alors, le pouvoir de la parole. Alors, on a déjà un peu abordé ce sujet-là, mais qu'on en ait conscience ou pas, la réalité est que toutes nos paroles ont du poids. Elles produisent quelque chose. La parole exerce un pouvoir d'influence considérable. On voit bien en politique, en justice, dans tous les échanges humains. D'un seul mot, on peut... petite vibration de l'air, on pourrait dire que c'est juste un petit son produit, vibration de l'air, mais on peut déclencher la colère, le rire, l'amour. On peut même provoquer la révolte ou la guerre dans les discours des chefs d'État. Donc la parole, elle a une forme de puissance, d'effet qui est non négligeable. Le livre de la sagesse comporte de nombreuses mises en garde contre un discours non méprisé. Donc là, vous avez beaucoup de proverbes, très rigolos. Je trouve que les proverbes, ils sont toujours un peu rigolos, mais voilà. Donc, il y a la parole de l'homme sage qui compare une source aux eaux profondes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, la langue a le pouvoir de vie et de mort. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Enfin, vous en avez une ribambelle de proverbes que je ne vous cite pas tous, mais vous pouvez relire les proverbes. Et Jésus lui a aussi démontré la puissance potentielle de la parole qui sort de notre bouche, et pris par exemple la tempête, voilà, où il donne la tempête ça s'arrête, mais aussi avec l'histoire du figuier, vous savez, il passe devant le figuier, il produit pas des fruits, donc il lui dit hop, tu es tout sec, et de fait il est sec. Donc c'est même une parole de mort en l'occurrence. Alors c'est pas une mort, c'est une mort d'un arbre, d'un figuier, c'est pas une mort sur les gens, il n'a jamais prononcé ces paroles là et voilà, donc elle a une vraie puissance effective, et on a l'impression en plus dans le thème du figuier que vraiment il passe juste, et en passant hop, il dit un truc et voilà. Ça y est. Donc la vie d'un individu est le reflet des paroles qui sortent de sa bouche, et ces mêmes paroles sont celles qui produisent la vie qui est la sienne. Donc en fait, les gens en général croient ce qu'ils disent, et ils disent ce qu'ils croient. Ça, c'est en général ce qu'on essaye de faire quand même. Et nos paroles, elles ont du poids, d'autant plus que si la personne en face y croit, voilà, parce qu'elles ont un poids, mais elles ont un poids propre quand même, parce que même quand on y croit moyennement à ce qu'on raconte, ça peut quand même avoir une action. Donc les paroles en elles-mêmes ont du poids, mais c'est vrai que si on veut leur donner le bon poids, il faut les vivre quelque part et les sortir du fond du cœur. Pierre Bourdieu, dans son ouvrage « Ce que parler veut dire », souligne que la parole est le reflet du pouvoir d'un individu dans un champ social. Dès que l'on parle, on dit ce que l'on dit, mais on dit aussi par la manière de dire la valeur de ce qu'on dit. Donc ça, c'est aussi une phrase, j'ai peu creusé ce point-là. Mais la parole, c'est pas seulement des mots, c'est aussi ce qui va avec. On parle du langage du corps aussi, du voilà, il y a ce qui est autour et qui donne aussi un poids et une connotation à la parole. D'ailleurs, souvent, qui nous associe sur une parole qui est plus vraie ou moins vraie selon la manière dont on dit aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a la parole, mais il y a aussi tout ce qui est autour parce qu'elle exprime notre être. Et donc, du coup, notre corps porte aussi quelque chose de la valeur qu'on veut y mettre et du coup, qui peut être entendu par l'autre. Alors, notre parole, elle est aussi la nôtre. Donc, on ne parle pas tous de la même façon. Elle est façonnée par notre histoire, nos expériences, notre univers aussi, hein, de région, mais aussi du niveau social, de la façon dont qu'est-ce qu'on a lu, etc. Donc, elle est très façonnée. Et donc, il faut toujours se méfier de paroles qui iraient dans une sorte de reproduction mécanique d'un discours entendu. On se fait tout savoir de temps en temps à dire des paroles que juste on a entendues comme ça, mais on n'y a pas vraiment réfléchi, on répète, puis après on dit non, mais en fait, c'est pas du tout vrai, ça. Donc il faut vraiment être convaincu que notre parole, elle a des choses importantes à dire et aux autres et à Dieu, et donc il faut y faire attention. Voilà. Saint Thomas d'Aquin était très scrupuleux des mots qu'il choisissait, des façons de faire, de dire. Et pour lui, c'était très important parce que ça disait au-delà des mots eux-mêmes, quoi. Il y avait le sens, il y avait la manière dont on introduit les choses, etc. Il y était très vigilant. Quand dire, c'est faire. Donc en plus, la parole, elle est... on a aussi, dans une certaine forme, une parole performative, donc qui agit, enfin qui dit ce qu'elle fait. Quand on dit du mal, on fait effectivement mal à la personne. Donc quelque part, elle est en acte. Quand on dit « je promets », alors, pour peu qu'on tienne l'engagement, hein, c'est effectivement qu'on prend l'engagement. Quand on écrit un raisonnement, on est en train de raisonner. Donc, voilà, il y a une forme d'effectivité notre parole qui est... bien sûr, elle n'est pas comme Dieu qui a la parole créatrice. Mais nous aussi, on peut participer d'une certaine façon à cette période qui dit... à cette parole qui dit et qui fait en même temps. Alors, on a deux exemples flagrants. C'est la confession de foi du martyr, qui signe de son sang son témoignage. Donc là, on est tout à fait dans le registre du faire et du dire. Bon, c'est un peu extrême, mais voilà. Mais il y a aussi le mariage, où finalement, c'est les phrases, les paroles qu'échangent les deux époux. « Je te reçois comme époux et me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie », qui fait le mariage, en fait. Voilà, donc c'est la parole qui fait. Voilà, donc on a ce... Donc Jésus éminemment a réuni en sa personne la parole et le fait, la parole et l'événement, mais il nous y donne accès par grâce. Et si nous retrouvons si nous devenons disciples du Logos, et bien nous pouvons retrouver cette concomitance ou cette consonance entre le dire et le faire. Le Christ, il est très dur sur les reproches d'hypocrisie. Je vous ai cité tout à l'heure l'histoire de vipère, machin, la serpent, la vengeance de vipère. Mais il est aussi dans Matthieu 7, 5, 15, 7, enfin, il y a plusieurs passages, parce que pour Jésus, c'est la parole, elle est l'expression de l'être. Donc, toute parole qui est hypocrite, eh ben, en fait, elle est une atteinte à notre être. Voilà. Et donc, il dit que votre parole soit oui, oui, non, non, et le reste vient du mauvais. Voilà. Et donc, cette parole vraie, retrouver une parole vraie qui rendra libre, c'est ce que nous disons. Alors, la parole missionnaire, c'est peut-être dans l'apostolat que la parole prend tout son sens, puisque c'est mettre les hommes en contact avec le Christ, qui est lui-même la parole. Donc là, je vous ai mis les références de saint Paul sur Romains. La parole de la foi que nous prêchons, comment croire sans d'abord l'entendre et comment entendre sans prédicateur. Donc, si la foi passe par l'oreille, c'est qu'il faut une adhésion libre et personnelle pour y accéder. Donc là, on retrouve la thématique de la parole, elle exprime mon être et elle sort de moi. Donc, si elle est... La parole de Dieu, elle doit sortir en vérité. Et en même temps, de l'autre côté, il y a l'écoute et l'oreille qui écoute ça. Et aussi, pareil, elle ne le transformera que s'il y a une adhésion de la volonté. Donc, la parole, elle est un véhicule, mais elle est aussi ce qui fait qu'il y a une vraie émission, une vraie réception. Alors, la parole missionnaire, elle implique la parfaite transparence de la parole humaine, c'est-à-dire sa disparition comme parole propre. En fait, quand on fait de la mission, quand on fait de l'apostolat, en fait, notre parole, elle est aliénée au sens de prise de possession par un autre. Et quelque part, ça devrait être le Saint-Esprit qui parle quand on parle. Et donc, ça ne devrait plus être notre parole, tellement on devrait être transparent pour délivrer le message évangélique. Et pourtant, elle ne sera vraiment transparente que si elle est éminemment l'expression de notre vie. Et donc, il ne s'agit pas de répéter un texte de Dieu ou même de dire des passages. Voilà, les témoins de Jéhovah, ils citent à tout va des tas de passages de la Bible. Mais en fait, ce n'est pas une parole transparente, ça. Une parole transparente, c'est celle où le Christ est tellement... je suis tellement plein du Christ et je porte tellement le Christ en moi que du coup, ça peut être lui qui parle à travers moi. Voilà. Et c'est ça la vraie parole transparente au Christ. Je vous ai mis une citation de Bossuet qui a beaucoup écrit sur l'éloquence, alors plutôt du prédicateur, mais qui est valable exactement pour le missionnaire. Voilà. Enfin, que Dieu y parle tout seul par la pureté de son évangile. Comme j'ai dessein de parler au cœur, je veux laisser parler le divin amour. Donc c'est laisser parler le Christ pour aller au cœur de la personne qui est en face de nous. Alors, le prédicateur, il a trois ressources. Il y a, et c'est intéressant de dire qu'il est instruire, informer, donc c'est le doquerer, plaire, charmer, je trouve ça intéressant, et émouvoir. Voilà, donc il ne s'agit pas seulement de parler à la tête, intellectuellement, à la raison, mais à toute la personne. Et donc la parole, elle doit englober tout ça, et c'était les travaux sur l'éloquence, c'était vraiment ça. Un prédicateur, il devait travailler sur ces trois registres-là pour vraiment toucher la personne. Comme le verbe qui jaillit des profondeurs du silence du Père, la parole de l'homme est dans son cœur avant d'être sur les lèvres. Si son cœur est droit, s'il a lutté déjà contre le mépris et l'envie, il pourra dire une bonne parole constructive, comme dit l'apôtre. Le missionnaire ne pourra se réunir par la bouche au cœur qui l'écoute, donc c'est le lien de ma bouche au cœur de celui qui est en face de moi, sans que la vérité soit le don de sa propre vie. Et fondé à parler du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est devenu plus qu'un serviteur, l'ami de Jésus, par une vraie vie théologale. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et donc c'est ça qui garantit la vraie parole, c'est de se laisser devenir disciple du Christ et être vraiment sa vie envahie par le Christ. Il n'existe pas d'autre service, d'autre fonction au service du salut en Jésus-Christ que d'être en vérité ses amis et de témoigner de cet amour substantiel qui est l'esprit vivifiant au cœur de l'apôtre. Donc c'est dans Jean 15 où il nous dit « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. » Donc ça c'est vraiment le programme du missionnaire. Voilà, c'est se laisser que le Saint-Esprit rende témoignage. Et témoignage, c'est voilà, ça raconte une histoire, c'est pas juste une parole comme ça en passant. L'envoyé vit du Christ, l'envoyé du Père, et en vivant de son esprit, il fait vivre. Donc c'est toutes les thématiques autour de Romains 13, revêtons le Seigneur Jésus-Christ, où je ne vis plus moi, mais le Christ vit en moi, Galates. Alors l'autre aspect de la parole missionnaire, c'est que le Christ, il s'adressait à des hommes singuliers. Il n'a pas fait un discours reproduit en 15 000 exemplaires à des gens abstraits, je ne sais pas, ou à une foule. Même dans la foule, on voit qu'il s'adresse à des gens, en fait, et souvent. Donc à travers la prédication, le Christ, il s'adresse à des personnes. Et par ses paroles, la révélation est transmise, elle peut s'actualiser, parce qu'il faut qu'elle s'enracine dans le cœur par la parole. Donc ça, c'est, voilà. Et la parole humaine, quand elle vient des profondeurs, quand elle pourra parler aux profondeurs de celui à qui elle s'adresse, et c'est ce qu'on essaye de faire dans la mission, pour éveiller quelque chose en lui de ce que Jésus est imprimé, de l'esprit qui habite déjà là. Voilà. Donc c'est pas du tout une histoire de rapport de force, c'est pas de convaincre au sens d'imposer à l'autre ce qu'on dit ou de défendre son point de vue. C'est quelque part un dialogue qui permet de faire éclore la vérité. Très belle phrase de Saint Paul aux Thessaloniciens. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Voilà. Et donc, il y a ce jeu entre la parole humaine et la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans la mission. Alors, en conclusion, je vous ai un petit peu parlé de la thématique de la parole qui est nourriture. Et donc, il y a vraiment donc on en a parlé à l'Eucharistie, mais là, c'est vraiment la parole de Dieu qui est nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est même la phrase que Jésus oppose aux tentateurs au désert. Voilà. Et donc, la parole comme un pain, comme une nourriture, parce qu'elle nous connecte à Dieu. Et parce qu'elle nous permet d'accomplir notre vocation d'homme, qui est d'être disciple du Seigneur. La parole humaine est l'image véridique de l'esprit, restitué dans le discours comme dans un miroir. C'est du cœur en effet que procèdent les pensées, dit le Seigneur. Quant au Christ, il est la parole de Dieu Tout-Puissant qui, sans commencement, sans fin, éternellement, jaillit du cœur éternel de son Père. Donc on a ce verbe qui jaillit du cœur de Dieu, Hérasme, qui est éternellement là et qui vient nous rencontrer quelque part dans l'Esprit Saint pour que nous puissions être connectés aux pensées du Seigneur. Donc devenir disciple du Logos, faire nôtre la parole, c'est permettre à la Trinité de venir demeurer en nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Voilà, puis je vous ai mis deux petits compléments parce qu'après je me suis dit que c'était trop long. J'ai mis un truc sur l'instrument de vision, Saint Thomas d'Aquin qui a dit le mix entre voir et entendre, et puis parler en langue. Je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant. Qu'est-ce que ça voulait dire cette chose? Voilà, voilà.
Il disait que